France Culture.
C'est un événement très emblématique qui s'est tenu lundi dernier au château de Versailles, mis en place au tout début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron en 2018. Il incarne à lui seul une politique qui ne saurait pourtant être tout à fait qualifiée de telle, celle de l'attractivité, un mot élevé au rang de slogan avec ce fameux sommet Schussfriends, car c'est de lui dont nous parlons, appuyé par des chiffres en cascade, 37 milliards d'euros d'investissements étrangers en France, dont 20 milliards entièrement nouveaux, 400 participants venus de 46 pays différents, dont 200 chefs d'entreprise, un dynamisme affiché dans un contexte où redresser non seulement la France, mais aussi toute l'Europe devient une urgence en soi. En 2024, c'est 14% de projets internationaux en moins sur lesquels l'économie française ne pourra de fait pas compter, et 5% pour l'Europe. Et dans un contexte où la guerre commerciale menée par Donald Trump porte en elle évidemment son lot de menaces, en 2024, seules 942 entreprises américaines ont fait le choix d'investir en Europe, soit son plus bas niveau depuis 10 ans, une situation qui ne devrait donc pas aller en s'améliorant. Mais au-delà de ce qui n'existe pas ou plus, une question se pose: doit-on se réjouir de ce qui existe? Les projets d'investissement direct de l'étranger sont-ils véritablement synonymes d'emploi et de croissance? Les subventions mises sur la table et qui participent grandement à l'idée de cette attractivité sont-elles à la hauteur des résultats obtenus? Au total, ce sont 45 milliards d'euros d'investissements qui ont été mis sur la table depuis les débuts de Schussfriends, dont soit 180 projets, une quinzaine pour le moment ont abouti. Attirer est une chose, concrétiser en est une autre, et surtout reste à savoir qui en bénéficie. L'attractivité peut-elle, doit-elle être au service d'une politique de réindustrialisation et d'innovation? Qui a le contrôle de ces investissements et quels sont leurs effets réels sur le tissu économique français? Attractivité, compétitivité, productivité, c'est à ces grandes notions et à toutes ces questions que nous allons répondre aujourd'hui en direct et jusqu'à 15h dans cette émission programmée et préparée par Bruno Barada, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Dalia. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir trois invités autour de la table ronde d'actualité d'Entendez-vous l'écho. Solène Daven, vous êtes chef du service économie à l'usine Nouvelle Média, spécialisée dans l'industrie, comme son nom l'indique, et qui a réalisé un vaste travail de recension et d'enquête pour établir une cartographie de l'état d'avancement des projets Schussfriends à travers le pays. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Également avec nous, Nadine Levrato, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directrice de recherche au CNRS et grande spécialiste des questions industrielles. Et enfin, également avec nous, François Gérolf. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes également économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vous êtes également chercheur et professeur associé à Sciences Po Paris. Et un grand merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation.
Pourquoi je suis ici devant vous? Parce que nous avons des annonces nouvelles.
Emmanuel Macron, le 19 mai 2025.
Alors vous le savez, chaque année, depuis 8 ans, on a mis en place ce qu'on appelle Choose France. On essaie de regrouper, de mobiliser les investissements internationaux. Cette année, on va annoncer 20 milliards d'investissements nouveaux, plus 20 milliards de confirmations d'investissements dans l'intelligence artificielle.
Nous ne serions pas venus à Paris sans le président.
James Dimon, président directeur général de la banque JP Morgan, le 15 mai 2025.
Quand nous avons envisagé de déménager nos activités de trading, Paris et la France n'étaient vraiment pas sur la première liste. Le président nous a envoyé une équipe pour me rencontrer, ainsi que Daniel Pinto. Nous pensons qu'ils allaient nous parler, mais pas uniquement de la qualité de la gastronomie française. Ils nous ont parlé des différentes réformes, des raisons pour lesquelles cela avait un sens de venir. Ils nous envoyaient des photos également, des photos de bureaux notamment. Il nous faisait part du soutien des dirigeants politiques et il a été exceptionnel.
On a investi depuis maintenant 25 ans en France.
Frédéric Duval, patron d'Amazon France, le 19 mai 2025.
Depuis 15 ans, 25 milliards d'euros en France. Et cette année, on annonce 300 millions d'euros supplémentaires et 1500 emplois dans notre service logistique. Il y a la demande naturelle française, il y a le fait que la France soit au milieu de l'Europe et donc bien placée d'un point de vue logistique. Il y a aussi des Françaises et des Français qui sont bien formés, très compétents. Et tout ça fait que, eh bien, on a envie d'investir en France. On a lié une confiance avec les Français et les Français, avec les entreprises françaises. Et c'est l'occasion de Choose France de continuer une belle relation de confiance avec les autorités françaises et de faire en sorte que, voilà, on leur dise que oui, on a envie d'investir dans notre beau pays.
Peter Majeranowski, président directeur général de Cirque, le 19 mai 2025.
Nous avons regardé partout en Europe et dans le monde sur plus de 80 sites. La France était numéro 1. La France a une énergie décarbonée, peu chère et stable. Vu la situation géopolitique avec la guerre en Ukraine, c'était un facteur important pour nous.
Solène Daven, nous l'avons dit, il s'agit de la 8e édition du sommet Choose France. Alors un point sur cet événement tel qu'il existe donc depuis 2018. Quel est son but dans l'absolu si vous deviez en résumer l'ambition ?
Alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron, dès le début de son mandat, de son premier mandat, avait fait de l'attractivité vraiment un de ses points forts et de ses vraies batailles. L'idée de départ de l'Élysée, c'était de profiter du Forum économique de Davos qui avait lieu en janvier, et profiter que tous ces grands patrons étrangers, notamment américains ou asiatiques, étaient de passage en Europe pour les attirer juste un petit peu avant, juste un petit peu après, à Paris, pour leur parler, non pas de l'Europe, mais aussi de la France, et de les inciter à investir en France. Et de là est né le sommet Choose France. Alors après, il y a eu la période du Covid qui fait que le sommet français s'est un petit peu décalé par rapport au forum de Davos, qui était plutôt en janvier. Donc le calendrier s'est décalé, et puis finalement, c'est pas plus mal, parce que c'est beaucoup plus agréable d'être à Versailles en mai qu'au mois de janvier. Et ça, c'est un peu, c'est une des réussites de sommet, c'est que ça a réussi à s'ancrer dans un agenda international qui est quand même très chargé de ses grands patrons. C'est devenu un passage assez, peut-être pas obligé, mais en tout cas assez apprécié de ses grands patrons. En général, Élysée raconte qu'ils ont beaucoup plus de demandes, qu'ils n'ont de place à offrir aux grands patrons, qu'il y a une vraie bataille pour avoir ses tickets pour rentrer à Choose France. Donc ça s'est plutôt installé dans le paysage.
Et justement, Solène Daven, de quel patron parle-t-on là ? On voit la dimension très internationale de Choose France, on le comprend. Est-ce que pour autant, les entrepreneurs français sont exclus du dispositif ?
Alors non, ça avait été une petite bataille de leur part d'ailleurs. Au début, c'était uniquement des étrangers, et puis ils avaient réclamé, ils avaient trouvé que c'était quand même pas tout à fait normal de les exclure de ce genre de sommet. Donc maintenant, il y a je crois que cette année, il y avait notamment le patron de Mistral, donc qui est une entreprise dans l'intelligence artificielle qui était là. Je crois que le patron de la start-up Pasquale aussi dans le Quantique était présent. Il y en avait d'autres qui étaient aussi là. Donc c'est un petit peu les deux. L'idée étant quand même d'essayer d'aller chercher des gens qui ne connaissent pas la France. On peut se dire que les chefs d'entreprise français sont déjà bien au fait de nos atouts et de nos faiblesses aussi. Là, c'est aussi l'idée d'aller chercher des gens qui n'avaient peut-être aucune idée de ce qu'ils pouvaient attendre de la France et de leur donner envie de venir aussi investir ici.
Et c'est important de le préciser parce qu'on voit qu'il y a différentes logiques. On entendait le patron d'Amazon France. On se doute bien qu'Amazon n'a pas nécessairement entendu parler de la France pour la première fois lors de ce sommet qui a eu lieu lundi. Il y a à la fois cette logique d'annoncer de nouveaux montants d'investissement et la logique d'annoncer, pour le coup, vraiment des structures productives, on va dire, qui sortent de terre. Est-ce qu'on sait faire un peu la part des choses lors de cet événement-là ? Et pour qu'on comprenne bien, et là encore une fois, le cas d'Amazon France, il est intéressant, c'est qu'il y a cette idée de, on a déjà réalisé, ça fait 15 ans qu'on réalise des investissements, là on annonce une nouvelle enveloppe. En fait, si on comprend bien, Choose France, c'est un peu un chapeau ou en tout cas un événement pour faire des annonces plus qu'autre chose.
Alors oui, c'est un petit peu les deux. C'est vrai que pour les patrons qui viennent là, souvent il y a l'idée de faire avancer parfois des projets et puis aussi de discuter entre eux. Il y a un côté un petit peu business forum d'affaires où ils vont rencontrer des clients, des fournisseurs et tout ça, ils aiment bien. Ça fait avancer leurs affaires. Et puis il y a le côté événement plus politique qui est là, plus piloté par l'Élysée, qui cherche à pouvoir présenter un chiffre, si possible, plus gros que l'année précédente, avec le plus de milliards d'euros d'investissement possible. Donc là, il y a un petit jeu de leur part pour essayer de grossir le chiffre. Et parfois, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises, parfois des choses qui sont de nature un peu différente.
Nadine Levrato, nous l'avons dit, cet événement est donc créé en 2018. À quelle nécessité venait-il répondre ? On le comprend, il y a une forme de stratégie marketing, mais pas que non plus. C'est une façon aussi de penser les investissements en tant que tel. Est-ce qu'en 2018, les inquiétudes se cristallisaient déjà autour d'une possible fuite ou d'un détournement de l'attention des entreprises étrangères vis-à-vis de la France ?
La question des investissements directs étrangers, qui est au cœur du forum Choose France, doit être replacée dans une approche générale d'une politique de réindustrialisation
réindustrialisation, pardon, on va dire, pour faire court, qui fait suite à 20 ans de désindustrialisation de la France, avec plusieurs rapports qui tire une sonnette d'alarme. Alors, ça a commencé très tôt, hein, au milieu des années 2000, en 2004 précisément, le rapport de Jean-Hervé Lorenzi déjà attire l'attention sur les risques. 2008, le rapport BEFA. Et donc, 2017, déjà, il y a une reprise industrielle, mais très légère, qu'on lit dans les chiffres de l'emploi. Et finalement, Choose France, avec tout l'apparat qui l'accompagne, c'est à Versailles, c'est dans la salle des batailles. On a un concentré de projets qui sont annoncés avec donc un effet masse. La première année, c'était 2,1 milliards d'euros d'investissement. Donc, il y a une croissance continue qui s'explique par le fait qu'on met un peu de tout maintenant dans Choose France, mais voilà, c'est un petit peu dans la logique qui vient compléter aussi la Startup Nation, hein. Alors il y a les très petits et il y a les très gros de l'autre côté, parce que bien sûr on ne crée pas beaucoup d'emplois avec des start-up. Il y a le problème de la base industrielle du pays, et donc voilà, on complète le dispositif.
François Gérolf, on le voit, cet événement est lié à une préoccupation majeure, celle de l'attractivité. Nous avons déjà lâché ce mot. L'idée, elle est assez on le comprend spontanément, c'est cette idée d'attirer, donc d'où l'idée d'attractivité, de donner envie aux entreprises de s'installer en France. Est-ce pour autant un concept scientifique, ce terme d'attractivité ?
C'est en tout cas un concept qui est difficile à définir. Donc si on a du mal à le définir et qu'il y a plusieurs définitions, c'est peut-être que effectivement la science n'est pas complètement figée sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on veut dire par attractivité et qu'est-ce qu'on recherche dans Choose France ? Est-ce qu'on recherche les capitaux, parce qu'on manquerait de capitaux en France et donc on manque d'épargne, et donc on recherche avant tout des capitaux, des entrées de capitaux? Est-ce qu'on recherche des technologies qu'on n'a pas, des entreprises qu'on n'a pas, qui savent faire des choses que les entreprises françaises ne savent pas faire? Est-ce qu'on recherche des brevets? Enfin, tout ça n'est pas très bien défini au départ, et je pense que la question d'attractivité, elle recouvre un petit peu tout ça. Je pense qu'au départ aussi, Choose France, c'est une manière de symboliser d'une manière un peu concrète la politique de l'offre qui est menée depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui consiste à baisser les impôts sur les entreprises, à faire la flat tax, la réforme de la fiscalité du capital, pour que la France soit plus productive, plus attractive, faire venir des investissements. En tout cas, au départ, c'est comme ça que la politique est vendue. Et donc, je pense que montrer qu'il y a des entreprises qui viennent en France, effectivement, pour investir, c'est une manière très simplement de concrétiser du point de vue politique une politique de l'offre qui peut paraître un peu abstraite, parce que quand on parle de suppression de l'ISF et qu'on dit que ça va faire en sorte qu'il y ait plus d'investissements en France, c'est pas très concret en fait. Et donc je pense que au départ c'est vraiment aussi la concrétisation d'une politique horizontale fiscale, plutôt on va dire pro-entreprise, pro-business, une politique de l'offre, et de concrétiser ça un petit peu dans des annonces, dans des emplois, dans des investissements, dans des choses concrètes. Après, au départ, j'ai l'impression que c'était plutôt, comme vous l'avez dit, c'était plutôt dans le numérique, plutôt la Startup Nation. Et c'est vrai que je pense qu'avec le Covid, on a refocalisé l'angle aussi sur la question de la réindustrialisation, parce qu'on s'est rendu compte qu'on manquait de masques, qu'on manquait de beaucoup de choses. Et donc, il y a eu une forme de consensus, y compris dans le camp d'Emmanuel Macron, que la désindustrialisation était un problème. Au départ, je pense que Emmanuel Macron n'était pas forcément le plus convaincu à ses idées. Son credo, c'est plutôt la destruction créatrice, suite aux idées notamment de Philippe Aguillon sur Schumpeter, l'idée que finalement il y a des entreprises qui se détruisent et puis d'autres qui se créent. Les entreprises nouvelles, c'est plutôt dans le numérique. La France a plutôt un avenir dans les services. Enfin, au départ, c'était un petit peu ça quand même.
Une nécessité la Startup a fait Nation. Loi, d'une certaine manière.
Voilà. Et en fait, je pense que le Covid a vraiment montré, et je pense que Emmanuel Macron est très pragmatique, qu'il y avait eu un problème. Il y a quand même une question de savoir si Choose France n'a pas changé un petit peu d'objet. Et aujourd'hui, effectivement, Choose France devient un rendez-vous, un petit peu comme aussi on a de la promotion à l'export dans les services de Bercy depuis très longtemps. Je pense que c'est une bonne chose, en fait, que les services de l'État s'occupent de la relation de la France à l'extérieur et donnent une bonne image de la France. Voilà, c'est une bonne chose. Après, la question, c'est de savoir, effectivement, est-ce qu'il y a des réels impacts et est-ce que l'argent pourrait être utilisé autrement et puis est-ce qu'il y a des désavantages à avoir une politique comme ça ?
Vous venez d'exposer toutes les questions que nous allons tenter de nous poser jusqu'à la fin de l'heure qui nous attend. Ce changement d'objet, il est peut-être moins anecdotique qu'il n'en a l'air et il va aussi structurer notre réflexion dans le sens où on va se demander dans quelle mesure aussi ces investissements sont malléables, entre guillemets, dans quelle mesure on peut les contrôler, les flécher, les orienter. On le voit quand même, Solène Daven, il y a une forme de flou dans l'objet, peut-être pour rendre encore une fois la chose assez concrète, très concrètement, un projet issu du sillage Choose France, ce serait quoi ? Quels projets sont nés en France parce qu'ils ont tout à démarrer au sein de Choose France ?
Oui, alors, si on prend les 180 projets qui ont été annoncés donc, dans les éditions précédentes, il y a effectivement la majorité, ce sont des extensions surtout de sites qui existaient déjà, que ce soit des usines ou des centres de recherche. Ou des entrepôts logistiques, donc c'est parfois juste étendre une usine, ce qui est bien, hein, ce qui consolide la base industrielle déjà installée. Ça peut être moderniser des équipements et c'est aussi très utile. Nous, on a essayé donc à l'usine nouvelle, effectivement, de faire le décompte. On a trouvé une quarantaine de projets qui concernaient vraiment des créations de nouvelles usines ou de nouveaux centres de recherche ou de nouveaux data centers qui sont effectivement sur lesquels il y avait beaucoup de projets. Sur ces 40, 15 environ sont effectivement opérationnels. Donc, c'est des usines qui fonctionnent et qui donc ont créé de l'emploi. Si on prend par exemple, juste un exemple, le fabricant allemand du Thermomix, donc ce robot de cuisine, donc c'est le groupe Vorwerk, a ouvert ces jours-ci sa deuxième usine et a créé en gros 120 emplois dans la région centre. Donc voilà, ça c'est quelque chose effectivement concret, ancré dans les territoires. Voilà, comme ça, il y a des usines de fabrication de nouilles coréennes qui se sont ouvertes en Alsace. Il y a un certain nombre d'exemples comme ça. Des centres aussi de recherche. Snapchat qui a inauguré au tout début de la semaine donc un centre à Paris sur la réalité virtuelle. Donc il y a quand même des réalisations concrètes. Mais 15 sur 180, c'est pas encore beaucoup.
Solène Daven, j'ai une question vraiment de précision, et parce que c'est un point que je n'ai pas vraiment réussi à saisir, je vous l'avoue. Quand on parle de projet Choose France, en fait, à quelle réalité cela renvoie, dans le sens où est-ce qu'il faut qu'il ait été annoncé ce jour-là, on va dire ce lundi 19 mai, c'est tout ce qui compte.
C'est même pas un label, c'est juste qu'il figure dans les communiqués de presse qui ont suivi le sommet. Il n'y a pas de financement particulier, il n'y a pas de... Alors l'Élysée dit qu'il y a un petit soutien en plus parce qu'ils cherchent à savoir comment vont les projets a posteriori, mais c'est aussi le cas des autres gros projets qui n'auraient pas été annoncés dans ce cadre. Donc en vrai, c'est vraiment juste un lieu de communication et un moment de communication, surtout politique, effectivement, surtout. Mais il n'y a rien de particulier qui est associé à cela.
Et qui permet donc d'afficher ce chiffre de 20 milliards aussi d'investissement et donc de miser sur l'attractivité française. Alors, on a commencé à le dire avec François Gérolf, l'attractivité est un phénomène, ou en tout cas un objectif très difficile à définir. Il existe en revanche en France un baromètre de l'attractivité de la France, conçu par le cabinet d'audit américain Ernst & Young et Business France, qui est l'agence française qui est en charge, entre autres, d'accompagner aussi les entreprises étrangères en France. Un baromètre qui a établi cette année que la France reste le pays européen le plus attractif, même si on ne sait toujours pas très bien ce que ça veut dire, pour les investisseurs étrangers et qui enregistre un nombre de projets étrangers implantés sur le territoire plus élevé que ses homologues européens. Nadine Levrato, quelle crédibilité peut-on donner à ce très beau palmarès tel qu'il est présenté ?
La crédibilité qu'on peut lui donner, c'est celle d'un dénombrement. Et là, on compte des projets. Donc, derrière un projet, il peut se passer beaucoup de choses. Un investissement pour agrandir un site, une prise de participation, une création d'un nouveau site. Donc, on ne parle pas de la nature des projets. Or, c'est ça qui est important pour le tissu productif. Et justement, on ne parle pas non plus des emplois générés par ces projets. Et c'est le point faible, disons, du palmarès, puisque en France... on est entre 30-35 emplois créés par projet annoncés dans le cadre de Choose France. En Allemagne, on considère que c'est à peu près 120 emplois créés par les investissements directs étrangers qui arrivent. Ça s'explique justement par les types de projets qui sont considérés, beaucoup d'immatériel, beaucoup de data centers. On l'entendait au début, les projets d'investissement recherchent en particulier une énergie décarbonée, stable et à un prix raisonnable, même s'il est plus élevé qu'il y a 3 ans. Et c'est cela qui explique le fait qu'on ait beaucoup d'investissements de ce type-là, qui génèrent peu d'emplois directs. Alors j'ai entendu qu'on considère aujourd'hui les emplois induits aussi par les projets d'investissement, ce qui permet d'augmenter le chiffre des emplois générés. Mais compte tenu de l'incertitude quant à la réalisation effective du projet, qui était mentionné par Solène Daven, et le multiplicateur d'emplois qui permet de calculer les emplois induits, finalement c'est très très flou, et ce baromètre ne dit pas grand chose de tangible.
Le baromètre dit également que les projets d'investissement étrangers en France sont associés à près de 40 000 emplois créés. C'est un chiffre qui est cité par l'économiste Lucas Chancel, qui a publié une tribune à ce sujet dans Le Monde. Il avertissait les lecteurs et les lectrices du Monde en disant ce baromètre-là est trompeur, parce que certes il y a ces emplois, certes il y a ce classement de la France au premier rang, mais dès lors qu'on prend en compte les emplois, la France passe en 3e position sur l'échelle européenne de l'attractivité, derrière le Royaume-Uni et l'Espagne. Et si on rapporte ce chiffre à la taille des pays concernés, la France passe au 8e rang du classement. François Gérolf, on pourrait dire que attractivité sans emploi n'est que ruine de l'investissement, on pourrait le résumer ainsi.
Oui, enfin, en tout cas, si je me rappelle bien, cette tribune, elle date d'il y a un an à peu près, et il rappelait aussi que 30 000 ou 40 000 emplois, faut se rappeler les ordres de grandeur, il y a à peu près 30 millions d'emplois en France, donc c'est à peu près 0,1% de l'emploi. Donc même si on parle, effectivement, ça paraît d'être beaucoup d'emplois quand on dit comme ça en dizaines de milliers, mais en fait, par rapport au nombre d'emplois détruits, créés chaque jour, en fait, c'est très très peu. Et voilà, c'est pas avec ça. Enfin, encore une fois, quand on parle de la désindustrialisation de la France, dans les 30-40 dernières années, il y a 3 millions d'emplois industriels qui ont été détruits. Et depuis quelques années, alors c'est vrai qu'on redresse un petit peu la barre, c'est-à-dire qu'on a une création un petit peu d'emplois industriels de l'ordre, d'ailleurs, de ça, de quelques dizaines de milliers d'emplois. Mais c'est sans commune mesure avec les emplois qui ont été détruits. Et du coup, je pense que Lucas Chancel avait raison de rappeler et de relativiser, on va dire, l'importance de ces chiffres annoncé par le baromètre de l'attractivité. Il rappelait aussi, si je me rappelle bien, que Ernst & Young, effectivement, au départ, enfin, c'est quand même des gens qui sont, on va dire, acquis à la politique du gouvernement par nature, enfin, et qui essayaient aussi de défendre en quelque sorte cette politique. Et d'ailleurs, ils ont tout à fait raison, à mon avis, de le faire. Ils pensent que c'est une bonne politique, que la France va dans le bon sens en faisant ça. Mais après, il faut faire un petit peu attention. On crée un indicateur de l'attractivité. Ça ne veut pas dire qu'on a réussi à définir précisément ce que voulait dire l'attractivité. Et là, je pense que vraiment, comme vous l'avez rappelé, en fait, les atouts de la France, par exemple, ce dont vous avez parlé sur le fait que l'énergie était peu chère historiquement, l'énergie était décarbonée, le nucléaire, c'est quelque chose qui vient de très loin, de Pompidou, des investissements qui étaient menés il y a vraiment très longtemps, et je pense qu'ils sont pas vraiment attribuables à la politique de l'offre qu'on observe aujourd'hui. Donc en fait, les atouts dont on parle et les atouts qu'aiment les investisseurs ou même la main d'œuvre bien formée, c'est quelque chose peut-être d'ailleurs qui va plutôt en dégringolant, j'ai envie de dire, dans les années qui viennent, ou en tout cas ce qu'on est en train de vivre. Et donc les atouts qu'on voit sont pas exactement les atouts peut-être que le gouvernement a envie de mettre en avant, à savoir la flat tax, la politique des impôts de production, etc. Donc,
Et on va y revenir. Nadine Levratou, vous souhaitiez réagir.
Oui, pour abonder dans ce sens. En fait, lorsqu'on parle de politique de l'offre, c'est une politique de l'offre fiscale, puisque on pourrait considérer que ce qui est important pour les entreprises va bien au-delà de la charge fiscale qu'elles subissent. C'est tout un environnement qui va construire leur compétitivité, et cet environnement, il est donné par les aménités, par les services publics. Et là, on voit au contraire une diminution des moyens qui sont mis sur à disposition des collectivités locales, des ministères, des administrations pour construire cet environnement de l'entreprise. Et enfin, la tension entre la réduction d'impôts, les réductions d'impôts très nombreuses et qui ont été encore plus marquées depuis 2017 qu'elles ne l'avaient été auparavant, d'une part, et le fait que les services publics se dégradent alors même que Choose France et Business France communiquent énormément sur la qualité de l'accueil, du contexte socio-économique en France, montre que il y a un problème de politique industrielle, en fait,
et de
au-delà
vision,
de la politique de l'offre.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à évoquer finalement ce qui fait l'attractivité d'un pays de façon générale, mais de la France en particulier. Évidemment, Solène Daven, parmi les investisseurs et parmi les entreprises que vous avez pu rencontrer, on va dire, dans le cadre de votre enquête, qu'est-ce qui joue pour eux véritablement? Est-ce que c'est effectivement une politique fiscale spécifique ou effectivement ce prix de l'électricité relativement avantageux? Qu'est-ce qui pèse dans le choix de cette décision?
Alors la fiscalité, effectivement, c'est quelque chose que les entreprises regardent toujours et surtout regardent en relatif, c'est-à-dire qu'ils comparent les pays. Et donc c'est vrai que tout effort vers la politique de l'offre est plutôt bien perçu de la part des entreprises. C'est rarement le premier élément qu'elles mettent en avant pour venir s'implanter en France, notamment parce qu'on reste quand même à un niveau plus élevé que les autres, donc c'est pas vraiment un avantage comparatif que l'on a. Ce qu'elles mettent souvent en avant, c'est le marché. C'est-à-dire que la France, c'est quand même 60 millions d'habitants, donc c'est un grand marché. En plus, quand même situé au cœur de l'Europe, qui est aussi le marché unique. Donc ça, ce côté d'avoir des consommateurs à proximité, c'est souvent le principal moteur de l'investissement. Après, la main-d'œuvre, c'est vrai que ça arrive assez souvent, et notamment la disponibilité d'avoir une main-d'œuvre relativement qualifiée, suffisamment qualifiée pour leurs besoins. Et l'énergie, longtemps, ça a été un atout de la France. J'en parle au passé, ça reste un atout de la France. On a toujours une énergie très décarbonée. Il y a un problème qui est, là, non plus français, mais européen. Sur cette question-là, c'est que quand même, l'énergie est devenue beaucoup plus chère en Europe par rapport aux États-Unis où elle est environ 3 fois moins chère. Et c'est vrai que sur des projets très intensifs en énergie, comme la chimie par exemple, l'intérêt maintenant des industriels, des groupes internationaux, c'est plutôt d'aller se localiser au Moyen-Orient, aux États-Unis, en tout cas plus en Europe.
France Culture, entendez-vous l'écho? Alia Tovin.
François Gérolf, une question se pose après le vaste tour d'horizon que nous venons d'établir. C'est finalement pourquoi se concentrer sur ces investissements directs de l'étranger, ces fameux IDE, comme on les prénomme, comme on les surnomme dans le langage économique. On pourrait dire que c'est une forme d'investissement parmi beaucoup d'autres potentiels. À titre d'exemple, les 20 milliards annoncés pendant le sommet Choose France de ce lundi représentent 6% des montants investis traditionnellement par les entreprises en France. Bon, il y a Choose France, c'est une chose. Il y a les IDE dans toute leur largeur, on va dire, de façon plus générale. En 2023, les 17 500 entreprises sous contrôle étranger qui se sont installées en France ne représentaient qu'1% des sociétés françaises, mais elles contribuaient à 16% du PIB. Ce sont des chiffres de Business France. Est-ce que ces IDE sont nécessairement des investissements qui vont dans des entreprises à très haute valeur ajoutée?
Alors, je pense qu'il faut rentrer dans le détail. On peut pas. C'est difficile de dire est-ce que les IDE c'est bien a priori. Il y a des bons IDE. C'est comme, voyez, on s'est plaint d'un certain nombre d'investissements de multinationales parce que souvent. Parfois, en tout cas, ces investissements qui se sont traduits par des destructions d'emplois, c'était en fait une manière de réorganiser, par exemple, certaines filiales des grandes entreprises multinationales qui veulent pas réorganiser une de leurs filiales. En fait, en général, enfin souvent, leur stratégie, c'est de la vendre à un fonds anglo-saxon, par exemple, qui va faire en fait ce qu'elles auraient voulu faire si elles n'étaient pas contraintes en France du point de vue politique. Et donc, le fait de mettre des entreprises dans la main, on va dire, de décideurs étrangers, ça peut avoir des avantages en termes d'efficacité, en termes de savoir-faire. Ça peut aussi avoir des inconvénients du fait que les centres de décision sont maintenant situés à l'étranger et potentiellement sont moins ont moins de comptes à rendre, on va dire, au pays dans lequel elles sont installées. Si demain, JP Morgan décide de quitter la France, ça, c'est quelque chose sur lequel le gouvernement français aura aucune prise. Évidemment, c'est très différent avec une banque comme la BNP ou comme la Société Générale. Donc, je pense que ça vraiment, il faut rentrer dans le détail. Il y a des bons IDE. Je pense que Choose France est utile parce que c'est toujours utile de faire la promotion à l'étranger. Après, faut pas non plus être naïf. D'ailleurs, les entreprises françaises investissent aussi beaucoup à l'étranger. On parle pas des IDE vont dans l'autre sens. Les IDE français à l'étranger sont d'ailleurs beaucoup plus importants que les IDE des étrangers en France, hein, en termes de quantité. C'est à peu près deux fois plus selon les chiffres de la Banque de France. Alors, les chiffres datent un peu de 2023, parce qu'on n'a pas encore les chiffres 2024, mais en 2023, en tout cas, c'était le cas. Et les entreprises françaises sont connues notamment pour accéder au marché étranger, marché chinois, au marché américain, etc., en s'installant là-bas et en exportant à partir de là-bas. De la même manière, il est normal que des multinationales étrangères potentiellement veuillent se rapprocher du marché qu'elles ont envie de servir, ou au contraire, comme elles pensent que la main-d'œuvre est mieux qualifiée peut-être en France. Moi, je pense qu'il est mieux, par exemple, que Microsoft développe des activités d'ingénierie ou de recherche et développement en France, qu'ils ont des ingénieurs français, plutôt que de les attirer dans la Silicon Valley, par exemple. Voilà, je pense que c'est plus favorable. Après, ce qui serait peut-être encore plus favorable, c'est qu'une entreprise française, complètement française, pour le coup avec une technologie française, avec des brevets en France, développe effectivement des solutions de cloud européens, au moins au niveau européen, au niveau français. Et là, c'est vrai qu'on est largement en retard. Donc, faut voir aussi que c'est une forme d'échec et d'aveu d'échec de dire on a besoin que les multinationales américaines viennent en France pour nous donner tout un sort de technologie et embaucher les ingénieurs français. Peut-être que dans un certain nombre de technologies, il faudrait aussi qu'on développe nos propres capacités.
D'où les enjeux de souveraineté. Ma question n'était pas tant de savoir s'il y avait des bons et des mauvais investissements directs de l'étranger, mais plutôt dans quelle mesure. Mais je vais passer la parole à Nadine Levrato, parce qu'elle voulait réagir à vos propos, François Gérolf, mais plutôt de comprendre dans quelle mesure c'était un afflux, une forme de bouffée d'air frais financier dont on avait besoin d'un point de vue plus macroéconomique, on va dire.
Non, alors oui, donc ça, très, très clairement, les 20 milliards, c'est très peu par rapport aux flux qu'on a dans un sens ou dans l'autre. Hein, les flux de portefeuille, par exemple, les actions qui sont achetées par les Français à l'étranger ou que les étrangers achètent en France, c'est de l'ordre de plusieurs centaines de milliards d'euros chaque année. C'est tout à fait massif par rapport aux dizaines de milliards dont on parle là, mais c'est pas tout à fait. Enfin, je pense que les chiffres sont pas comparables. On parle pas du tout de la même chose.
Nadine Levrato.
Pour revenir à votre question initiale, est-ce que justement ces IDE dynamisent et pourquoi les entreprises étrangères sont meilleures que les entreprises françaises ou plus efficaces, il faut bien voir que les entreprises qui vont à l'étranger sont... C'est le haut du panier en matière d'entreprise, donc ce n'est pas une moyenne. Et comparer la situation des entreprises sous pavillon étranger aux 4 millions en plus d'entreprises françaises, parmi lesquelles il y a la moitié d'auto-entrepreneurs et 95% de petites entreprises, ça n'a pas de sens. Il faut comparer des entreprises comparables pour avoir... des niveaux de productivité, de taux de marge, de rentabilité du capital, tout ce que vous voulez, qui soit cohérent. Donc ça, c'est la première chose. Il est tout à fait logique que les entreprises étrangères soient plus performantes, plus dynamiques, plus exportatrices, etc. Ensuite, il ne faut pas se cacher qu'il y a aussi un risque. On l'a vu récemment encore avec ArcelorMittal. Quand on a des entreprises qui sont totalement contrôlées par l'étranger, eh bien, on peut moins faire jouer, à supposer qu'il y en ait une, la fibre patriotique qui peut être actionnée lorsque les entreprises sont françaises, enfin, et majoritairement détenues, soit par l'Agence des participations de l'État, soit par des actionnaires, voire des salariés français. Et c'est la question qui s'est posée avec ArcelorMittal et avec beaucoup d'autres entreprises auparavant, qui se pose aussi avec Sanofi qui a annoncé 20 milliards d'investissements aux États-Unis pour éviter justement les droits de douane à taux variable annoncés par Donald Trump. Mais là, on voit justement 20 milliards, c'est l'équivalent de ce qui a été annoncé à Choose France. Et on ne parle pas de CGM, enfin de toutes ces très grandes entreprises françaises qui ont annoncé aussi des implantations aux États-Unis.
Et de l'ordre de ce même ordre de montant, si mes souvenirs sont exacts. Alors, on a beaucoup parlé de 2018, qui est l'année de l'ouverture de ce premier sommet Choose France. Ça fait un bout de temps, de toute façon, que la fameuse question de l'attractivité inquiète, préoccupe. C'est ce que racontait le journaliste Jean-Marc Sylvestre le 13 novembre 2003 sur France Inter.
Le gouvernement a reçu hier le rapport Huyghe sur l'attractivité de la France. L'objectif est de mettre en œuvre tout mettre en œuvre pour éviter l'expatriation des cadres supérieurs et surtout d'attirer les sièges sociaux et les dirigeants d'entreprises étrangères.
Absolument, l'enjeu est important parce que la moitié de la croissance, c'est-à-dire plus de la moitié de nos investissements, de nos emplois, dépend de nos partenaires étrangers, de tous ceux avec lesquels nous travaillons, mais de tous ceux aussi qui viennent travailler chez nous. Alors face au risque de délocalisation des cadres, des dirigeants vers la Grande-Bretagne, vers les États-Unis, tout le monde a bien compris qu'il fallait attirer les entreprises étrangères et notamment ce qui compte vraiment, attirer les sièges sociaux, les dirigeants. Ça s'appelle renforcer l'attractivité de la France. Alors on a beaucoup d'atouts pour attirer en France les cadres dirigeants de la mondialisation. On a le climat, la mer, la montagne, notre système d'éducation qui est quand même pas un des plus mauvais du monde, le système de santé qui est lui aussi, qui n'est pas l'un des plus mauvais du monde, les infrastructures, tout ce qu'il faut pour que la France attire quantité de touristes, on le sait. Mais quand il s'agit de s'installer dans un pays pour y travailler, eh bien les grandes entreprises vont planter leurs sièges sociaux aux Pays-Bas, à Bruxelles, à Genève, au Luxembourg, partout ailleurs. Mais ils ne choisissent pas, en général et en priorité, la France. Le rapport Huyghe a dressé une liste des 10 mesures qu'il faudrait prendre pour faire en sorte que les Américains ou les Japonais, par exemple, qui veulent travailler en Europe, s'arrêtent à Paris, à Nice, à Lyon ou à Toulouse. Alors, ces 10 mesures, on les connaît. Il s'agit principalement de mesures fiscales qui reviennent à aligner notre système sur celui de nos voisins, sur l'impôt sur le revenu, éviter par exemple de taxer les primes d'expatriation, sur l'ISF, il faudrait le plafonner à 70%, mais c'est dans l'air parce qu'aujourd'hui, un étranger n'a même pas intérêt à venir acheter un appartement à Paris ou une maison en France. Il faudrait réformer bien sûr la taxe professionnelle et la calculer désormais sur les bénéfices, ce serait beaucoup plus logique et plus juste. Réformer également le droit du travail, le rendre sans doute plus souple, plus attractif. La France, elle, a encore aujourd'hui gardé les centres de recherche, mais croyez-moi, la situation est très fragile et ça risque de ne pas rester très longtemps chez nous. Si on n'y prend pas garde, il nous restera quoi? Il nous restera la Tour Eiffel, les hôtels et les terrains de camping.
Solène Daven, on entendait là une archive qui, je le rappelle, date de 2003, donc certains propos ont un peu vieilli, notamment en termes d'acronymes qui ne sont plus tellement d'actualité. On a là une certaine définition donc de l'attractivité, de ce qui pourrait aussi la générer, la stimuler d'une certaine manière. Et j'en reviens là, moi, au bon résultat du baromètre EY de 2025. Est-ce que c'est parce que ces leviers-là, qui ont été évoqués dans l'archive, mais qui résument globalement tous les leviers qui existent, de la météo au levier fiscal, est-ce que c'est parce que ces leviers-là ont été actionnés que globalement, vous avez pu constater l'idée que l'image de la France s'est améliorée auprès des entrepreneurs qui ont décidé de faire des investissements en France.
Alors ça, c'est notamment le baromètre EY qui le montre, qui essaye de calculer tous les ans l'image de la France, qui montre effectivement que depuis une dizaine d'années, alors ça date d'ailleurs d'avant Emmanuel Macron, c'est la rupture, en gros, c'est le CICE, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi, qui avait été mis en place sous François Hollande, donc qui essayait de justement s'attaquer à ces questions de coût du travail et de baisser le coût du travail. Ça avait marqué une inflexion. Et depuis, c'est vrai que régulièrement, l'image ou la perception de la France par les sièges sociaux mondiaux s'améliore. Il y a les questions fiscales, mais il n'y a pas que ça, malgré tout. Je pense que il y a eu aussi beaucoup d'efforts qui ont été faits ces dernières années pour simplifier, en fait, pour accélérer les procédures quand on veut implanter une usine dans un territoire, pour aider aussi à identifier le foncier. Le gouvernement, enfin, il y a notamment, on a fait un registre pour savoir où se trouvaient des terrains disponibles. Il y a eu un dispositif comme le dispositif de site clé en main qui permet donc d'avoir des terrains qui sont déjà expurgés d'un certain nombre de contraintes comme réaliser des fouilles archéologiques, etc. Tout ça, ça a permis de rendre un peu plus rapide une implantation en France et ça joue aussi sur l'image. Voilà, il n'y a pas que des leviers uniquement fiscaux ou sur le coût du travail.
Et là, Nadine Le Bardo, ça me permet de resserrer un peu la focale aussi. aussi. On a parlé de ce qui attire les entreprises de façon générale en France. Moi, j'aimerais bien essayer de comprendre aussi ce qui attire une entreprise sur un territoire spécifique. Que recherche, lorsqu'une entreprise cherche à s'implanter quelque part en France, comment elle va hiérarchiser ses choix? Et est-ce que les territoires, est-ce qu'on peut parler d'une forme de compétition entre territoires pour attirer justement ces entreprises?
La première chose à rappeler, c'est que les entreprises sont très peu mobiles. La plupart des mobilités d'entreprises, c'est au sein d'une même zone d'emploi. Donc, il y a vraiment une inféodation des entreprises à leur territoire pour toute une série de raisons sur lesquelles on pourra éventuellement revenir. Lorsqu'une entreprise décide de s'implanter, donc elle n'a pas de site et elle veut en créer un, ou lorsqu'elle veut s'implanter ailleurs, créer un nouveau site, tout ce genre de choses, il y a plusieurs éléments qui vont être observés. Le premier, c'est quelles sont les entreprises qui sont autour. Parce que l'entreprise ne va pas s'implanter dans le désert. Hein. On a plein d'expériences d'aménagement du territoire avec des décisions un peu par le haut de localisation d'entreprises. Et on voit que la situation est souvent très difficile à gérer. Donc, ce qui va compter, ce sont les clients, les fournisseurs, la proximité d'une vie économique à travers ce qu'on appelle les économies externes d'agglomération en économie, hein, et la diversité du tissu productif, les complémentarités sectorielles qui peuvent exister. Ensuite, il y a la connexion au reste du monde, au marché. Et on disait, la France est au centre de l'Europe. Géographiquement, non. En revanche, elle est très bien connectée. Le premier port français, c'est Amsterdam, c'est Rotterdam, pardon. Donc, ça arrive, mais ça peut aussi repartir vers le reste de l'Europe. Et il y a un exemple que j'aime bien, c'est celui de Toyota à Valenciennes. Pourquoi Toyota est allé à Valenciennes? Parce que il y a eu toute une panoplie d'instruments qui ont été mis en avant. Il y avait un bassin de main-d'œuvre inoccupé avec des compétences compatibles. Il y avait donc la proximité à la Belgique et donc à l'ensemble de l'Europe. Il y a eu tout un plan d'accueil de la part de la Chambre de commerce de la sous-préfecture. Et ensuite, Jean-Louis Borloo est arrivé pour empaqueter le tout. Donc, ce sont ces multicritères. Il y a un ensemble de facteurs qui expliquent tout ça. Et bien sûr, le coût du travail, bien sûr, la fiscalité va jouer. Mais lorsqu'on a travaillé justement sur la réforme de la fiscalité locale, on s'est aperçu que ce qui déterminait le plus la croissance des entreprises suivant les établissements publics, donc les EPCI, les collectivités locales considérées, c'était moins le poids de la fiscalité locale que le niveau des investissements qui étaient réalisés par ces collectivités locales.
Donc,
encore
une fois, l'environnement plus général.
Donc, preuve de plus que ce que recherchent les entreprises, c'est un terreau et des liens inter-entreprises et des liens avec d'autres territoires.
Solène Daven, le rappel très utile de Nadine Levrato sur la très faible mobilité, il est vrai, des entreprises m'interroge aussi sur un autre aspect. Je rappelle que dans l'enquête que vous avez consacrée à ce qu'il était advenu des projets déclarés lors de Choose France, vous le dites, et sur les 178 annonces d'investissement, il y a une quinzaine de sites qui sont véritablement opérationnels. Est-ce qu'il faut nuancer peut-être les choses et mettre cela sur le compte du fait que ce soit très compliqué aussi pour des entreprises d'émerger, de se mettre en place, de devenir véritablement opérationnelles? Il y a peut-être un argument tout simplement matériel, que ça prend du temps en fait de faire émerger des entreprises.
Faire des projets industriels prend du temps, et surtout que les plus gros projets qui ont pu être annoncés sur Choose France, ce sont des projets très ambitieux, de très grande taille, parfois sur des technologies aussi de rupture. Donc là, il y a des enjeux aussi de monter à l'échelle industrielle qui sont loin d'être évidents. Et ça explique aussi un certain nombre d'échecs, ou en tout cas de projets qui ont été annoncés et qui sont désormais suspendus. Si on prend un exemple, Global Foundries, c'est un fabricant américain de semi-conducteurs. Il avait annoncé en 2022, ce qui est jusqu'à maintenant encore le plus gros projet annoncé pendant un sommet de Choose France. Donc l'idée d'investir dans une usine en partenariat avec ST Microelectronics à Crolles, donc tout près de Grenoble, pour y produire un certain type de semi-conducteurs. Donc c'est un projet quand même qui mobilise 7 milliards d'euros, donc voilà, avec potentiellement 1 000 emplois à la clé. Ce qui s'est passé, c'est que forcément, c'est très très long, ce genre de projet a émergé, mais entre-temps, le marché mondial, et là c'est vraiment une question mondiale, le marché mondial des semi-conducteurs s'est retourné, parce que voilà, il est actuellement en surproduction au niveau mondial, et donc depuis, finalement, STMicroelectronics n'a plus de nouvelles de son partenaire américain, qui attend, qui dit actuellement qu'il attend, et il verra si la demande repart, s'il y a des clients, mais rien n'est sûr pour le moment. Donc c'est vrai qu'il y a un temps à ces très gros projets industriels, et il y a forcément un décalage de la réalité par rapport aux annonces.
François Gérolf, nous avons évoqué beaucoup d'éléments, l'écosystème aussi à l'échelle locale qui est très important, peut-être plus, nous le disait Nadine Levrato, que la fiscalité locale d'une certaine manière. Est-ce qu'il faut pour autant faire passer à la trappe, on va dire, tout ce qui concerne une forme de compétitivité vis-à-vis du coût du travail et de la fiscalité aussi, ça joue quand même dans l'attractivité. Pour ça, je voudrais pas qu'on croie qu'on a passé cet argument sous silence.
Non. Et puis, je pense que ça joue. Alors après, la question, c'est de savoir quel coût du travail hein, et quel coût du capital. Qu'est-ce que ça veut dire, le coût du capital? Est-ce que c'est le coût de l'investissement, le patrimoine, le fait d'un résident français, le coût de la fiscalité sur le patrimoine, ou la fiscalité du capital, c'est-à-dire plutôt la fiscalité des entreprises? On a allégé, depuis 2018, on a allégé à la fois la fiscalité sur les entreprises et la fiscalité sur le patrimoine. Peut-être que la fiscalité sur les entreprises a plus d'importance, en tout cas quand on pense à l'implantation des entreprises. Et puis, il y avait eu un débat autour du rapport Gallois, et qui d'ailleurs est toujours un petit peu en cours, de la question de savoir est-ce qu'il faut cibler les allègements de cotisations plutôt au voisinage du SMIC ou plutôt vers des salaires intermédiaires qui sont plus traditionnellement les salaires du secteur industriel et les salaires des cadres dont parlait Jean-Marc Sylvestre. Effectivement, là, je pense qu'il y a peut-être une question de compétitivité réelle. C'est-à-dire que quand on regarde les salaires intermédiaires, des cadres, mais même des ingénieurs qui débutent et qu'on compare au niveau de d'imposition qu'on a en Allemagne ou aux Pays-Bas, on a beaucoup de jeunes ingénieurs qui se disent qu'il serait mieux d'aller commencer leur carrière en Allemagne ou aux Pays-Bas. Pour des motifs, je pense, de salaire net plus élevé, tout simplement. Et donc, à mon avis, c'est une composante aussi de l'attractivité, parce que on parle toujours du capital comme s'il n'y avait que le capital à attirer, mais aujourd'hui, il y a aussi quand même les jeunes ingénieurs à attirer. Je parlais tout à l'heure de la Silicon Valley, des étudiants d'écoles d'ingénieurs français qui partent souvent à l'étranger, qui s'expatrient. Je pense que la question du salaire net est aussi importante, et la compétitivité, ça veut aussi dire de donner des salaires attractifs, on va dire, pour les étudiants qui ont des compétences ou des qualifications élevées. Et dans le cas de Mistral AI, par exemple, la discussion est tout à fait de cet ordre-là. Il parle du fait de pouvoir recruter. Alors, il parle aussi du droit du travail. C'est un sujet dont on n'a pas parlé. C'est quelque chose sur lequel Emmanuel Macron a aussi beaucoup insisté. On a quand même facilité le licenciement en France, mais il reste, les employés restent plus protégés que c'est le cas à l'extérieur. Et on a des entreprises en intelligence artificielle qui parlent du fait qu'elles aimeraient bien pouvoir plus facilement embaucher, pouvoir justement licencier leurs ingénieurs pour pouvoir plus facilement embaucher, parce que dans ces domaines-là, il y a beaucoup d'incertitudes, et donc ils veulent être capables de payer des salaires potentiellement très attractifs, mais en contrepartie d'un grand risque pour les employés. Et je pense que c'est un petit peu le même genre de question qui se pose d'ailleurs dans la finance avec JP Morgan, qui demande en fait à ce que le droit du travail soit allégé en partie pour permettre des flexibilités, parce qu'on sait que dans ces domaines-là, effectivement, on veut être capable de rémunérer les gens très bien, mais en contrepartie, ils ont vraiment un risque sur leur emploi qui est aussi très grand.
Nadine Levrato.
Oui, alors ce débat sur le licenciement comme facteur de création d'emploi, c'est un très vieux débat. Il n'y a pas de convergence des conclusions sur le fait de pouvoir corréler le nombre d'embauches au nombre de licenciements. De plus, il existe quand même quelque chose qui facilite le décrutement, si on peut dire, c'est la rupture conventionnelle. Enfin, il est aujourd'hui extrêmement facile d'éliminer un salarié d'une entreprise en faisant une rupture conventionnelle. conventionnelle. Il suffit de regarder les chiffres du ministère du Travail pour voir que cette forme de sortie de l'entreprise a remplacé les plans sociaux, toutes les autres formes plus judiciarisées. Et d'ailleurs, le nombre de recours au prud'homme est en chute libre aussi depuis plusieurs années. Donc, preuve en est que le marché du travail est relativement, enfin même très flexible. Néanmoins, cette image de rigidité du marché du travail français est quand même très fortement ancrée, peut-être parce qu'elle est entretenue aussi par toute une série de discours. Mais ce que l'on observe aussi, pour revenir aux arrivées et aux départs de jeunes, c'est que d'abord, beaucoup repartent en France, mais comme en Grande-Bretagne, comme en Allemagne, parce qu'ils sont étrangers. Donc, plus il y a d'étudiants étrangers, plus il y a de cerveaux qui vont quitter le territoire. Et cela dépend aussi des secteurs. On voit que dans la finance, où ils sont plutôt mieux payés qu'en Allemagne, les Français, les étudiants français ont tendance à rester, alors que dans l'industrie, où ils sont plutôt bien moins payés qu'en Allemagne, ils ont tendance à partir. Donc il y a des nuances sectorielles aussi à apporter.
Ce qu'on voit tout de même, et vous l'avez dit vous-même François Gérolf, c'est que c'est aussi une façon de modéliser ou en tout cas de concrétiser une forme de politique de l'offre qui s'est mise aussi en place ces dernières années. C'est un modèle qui ne fait pas nécessairement consensus, ce dont on s'est aperçu sur le plateau de TF1 où Emmanuel Macron a donné des entretiens face à des personnalités diverses et variées, dont la secrétaire générale de la Confédération Générale du Travail, Sophie Binet. C'était, souvenez-vous, il y a 10 jours tout juste.
La politique qui consiste à prendre les ordonnances travail, à baisser les impôts, à attirer les capitaux, à permettre de simplifier la vie des entreprises, eh bien elle produit un effet. C'est que pour la première fois depuis très longtemps, on est sorti du chômage de masse. On a baissé de 2 points le taux de chômage dans notre pays. Nous sommes depuis 6 ans le pays le plus attractif d'Europe en attirant des capitaux étrangers.
Oui, et donc, ces capitaux repartent avec nos savoir-faire et avec nos aides publiques. Aujourd'hui, c'est le chômage qui repart en flèche. L'Espagne, qui a eu une toute autre politique, n'est pas dans la même situation économique aujourd'hui que la France.
Madame la secrétaire générale, ça n'est pas vrai. Ils repartent pas avec les capitaux.
Ah bon, ils remboursent?
Mais il s'agit pas de rembourser. Je vais y venir sur chacun de vos points. Mais ce qu'on a fait, c'est une politique macroéconomique qui a permis de créer des emplois. On a créé 2,2 millions 200 000 emplois depuis 2017 et on a recréé 300 sites industriels en net, là on en avait détruit avant.
Donc, c'est une dynamique qui était européenne, il y a eu plus de création d'emplois dans les autres pays d'Europe qu'en France dans le même temps.
Non, ça n'est pas vrai.
Si ?
Non, je regrette, ça n'est pas vrai. Au moment, et d'ailleurs nous avons commencé à reconverger, au moment où d'autres ont détruit beaucoup d'emplois pendant le Covid ou après, nous avons continué d'en créer. Parce que si on a investi dans France Relance, dans France 2030, et on a eu raison de faire ça. Et on a raison de continuer à faire ça. J'étais hier encore à Vissous dans l'Essonne, chez Essilor Luxottica. Ils ont créé leur centre de R&D mondial le plus perfectionné en France. Parce que oui, on a apporté des aides, le Crédit Impôt Recherche et France 2030.
On entendait là ce débat qui se recristallisait aussi sur ce plateau de TF1 il y a une dizaine de jours, il y a 10 jours tout pile. Nadine Levrato, ce qu'on entend là aussi, bon, c'est un échange d'arguments et puis de faits. Bon, chacun défend sa vision des faits sur ce plateau-là. Se pose tout de même encore une fois la question de l'efficacité d'une certaine manière et de savoir aussi qui peut contrôler aussi la façon dont on entend implémenter ces entreprises nées d'investissements directs de l'étranger. Est-ce qu'il est possible de leur dire d'aller là où on a besoin d'emplois notamment, afin de rendre cet investissement efficace d'une certaine manière ?
A priori, non.
C'est ça.
On peut inciter, on peut inviter, mais on ne peut pas forcer. Enfin, on est dans un pays où il y a un droit des affaires qui est très protecteur des intérêts des entreprises, parce qu'on parle toujours du droit du travail qui protège beaucoup les salariés, mais le droit des affaires protège également les entreprises. Et on le voit avec toutes les fermetures de sites qui ont lieu actuellement. Et même lorsqu'il il s'agit de trouver un repreneur, l'entreprise est vraiment libre de trouver le repreneur qu'elle veut, y compris si ça va contre les intérêts du site. Vancorex, par exemple, il y a eu reprise par le principal concurrent chinois parce que il n'a pas été question d'homologuer la reprise sous forme de scope par les salariés. Et là, on a vraiment une divergence entre les intérêts des actionnaires, les intérêts des salariés, mais aussi les intérêts du territoire, puisque ça peut mettre en péril l'ensemble de l'écosystème et de cette fameuse plateforme de chimie qui a en Rhône-Alpes. Donc, on voit bien que les politiques d'attractivité territoriale peuvent coûter très cher à travers cette mobilité du capital.
Il y a la notion de risque, il y a aussi la notion de souveraineté qui est très importante. Solène Daven, deux parlementaires, Hervé Delépineau, qui est un député RN, et François Jolivet, qui lui est député Horizon, ont proposé avant-hier ou hier de renforcer le contrôle des investissements étrangers sur le territoire, y compris a posteriori. Ils ont publié un rapport sur le sujet et préconisent la création d'une délégation parlementaire sur la sécurité économique pour des secteurs stratégiques, donc ça reste relativement spécifique. Et puis surtout, ils entendent imposer un contrôle beaucoup plus systématique, on va dire, du respect des lettres d'engagement signées par les investisseurs étrangers en France. Alors je me demandais ce qui était stipulé dans ces fameuses lettres d'engagement, et puis surtout si cette solution-là d'un contrôle accru pourrait jouer en défaveur de la France en termes d'attractivité notamment.
Alors, c'est vrai que le contrôle de ces engagements qui sont parfois demandés quand on considère qu'il peut y avoir, enfin quand il y a un accord sous condition en fait au rachat d'une entreprise étrangère, était jusqu'à très récemment très peu surveillé par l'administration française. Donc c'est plutôt un pas effectivement vers un contrôle accru. Il y a un contrôle en France, mais il y a aussi un contrôle au niveau européen des investissements étrangers. Et au Parlement européen, il y a eu des propositions un petit peu similaires, en tout cas dans la philosophie, pour aussi renforcer le contrôle des investissements étrangers et aussi renforcer sur cette partie des investissements qui sont dits greenfield. Donc c'est des investissements dans des nouvelles usines, typiquement les projets de Choose France, où un investisseur arrive, ne rachète pas une usine, mais crée sa propre usine. Et donc pour vérifier là aussi si ça correspond bien aux intérêts de la souveraineté industrielle de l'Europe. Moi, je pense effectivement qu'il y a un certain nombre de choses qui relèvent de la France, et on a parlé de la politique fiscale, du droit du travail. Je pense que la question de l'attractivité, elle se joue aussi au niveau européen, et notamment quand on parle actuellement avec un certain nombre d'industriels, il y a une question sur cette compétition qui peut arriver des importations, pas que chinoises, on parle beaucoup des importations chinoises, mais ça peut venir d'ailleurs, qui sont moins chères. Et il y a une question aussi beaucoup de protection du marché européen qui sont demandées dans un certain nombre de filières industrielles un petit peu en difficulté. On a parlé de la chimie avec Vancorex. Donc c'est aussi à ce niveau-là, et à l'acier, effectivement. Donc la commission a commencé, hein. Il y a eu en février la proposition d'un plan d'urgence pour l'acier. Elle est en train de travailler sur un plan d'urgence pour la chimie. Il y a eu un plan d'urgence pour l'automobile. Mais c'est aussi en travaillant à protéger le marché, peut-être avec des clauses de contenu européen, local, qu'on peut aussi créer de la demande et du coup attirer ou en tout cas garder les industriels qui sont en France et en Europe.
Et puisque vous parlez du niveau européen qui effectivement pèse aussi dans les décisions, il faut préciser que le 19 mai, ce fameux jour du sommet Choose France, Emmanuel Macron a annoncé souhaiter la suppression de la directive européenne sur le devoir de vigilance, mesure qui a également les faveurs du chancelier allemand Friedrich Merz. De ce point de vue-là, François Gérolf, est-ce qu'on peut craindre finalement qu'il y ait une forme de modèle mais qui devient presque normatif également de cette politique de l'offre et qui conduisent à une forme d'abaissement de moins 10 ans, on va dire, en termes de normes sociales environnementales.
Oui, je pense que c'est le risque. C'est-à-dire que quand on parle d'attractivité, la question c'est à quel niveau on place cette question et est-ce qu'on la met au-dessus de tous les autres impératifs qu'on se fixe, donc environnementaux, sociaux. Et là, je pense qu'il y a effectivement actuellement, il y a un retour en arrière sur un certain nombre de questions qui reviennent en partie du rapport Draghi. On a identifié le fameux retard, décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis qui est attribué à une insuffisance, je pense, de la dérégulation, de la politique de l'offre. Donc on va toujours plus loin, en quelque sorte, dans cette logique-là. Et là, il y a quand même une question de savoir si l'Europe, justement, se distingue pas par des régulations un petit peu plus fortes sur les questions environnementales, notamment.
Nadine Lebreton, vous
oui, juste un petit point, parce que là, le diable est dans les détails. On demande la suppression au niveau européen, mais la directive a été transposée en droit français, donc continuera à s'appliquer en France. Et là, c'est se tirer une balle dans le pied, puisque les entreprises françaises resteront soumises au devoir de vigilance.
Choose me.
Un grand merci à tous les trois, Nadine Levrato, Solène Daven et François Gérolf, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que cette émission est évidemment à retrouver sur le site de France Culture, à la page d'Entendez-vous l'écho. Vous pourrez retrouver toutes les références qui nous ont aidés à construire cette émission et puis toutes les émissions précédentes.